Alexandre Dumas, Black, chapitre 12, comment le chevalier de la Graverie apprit à nager. Ce n'était pas un refuge bien assuré que le sommeil, contre les rêves que depuis la veille le chevalier faisait tout éveiller. Aussi, son sommeil fut-il des plus agités. D'abord, il revit les belles nageuses de la veille. Seulement, comme les sirènes du cap Circé, elles se terminaient en poissons et tenaient à la main une lyre, l'autre un ciste, toutes un instrument quelconque avec lequel elles accompagnaient une voix ravissante et pleine de promesses d'amour. Mais le chevalier, bercé dans les traditions mythologiques du XVIIIe siècle, et sachant le danger d'un pareil concert, et comme Ulysse, se bouchait les oreilles. Puis il abordait à terre, où il n'en savait rien, sans doute à Thèbes ou à Memphis, car sur sa route à droite et à gauche, sur des piédestaux de marbre, il voyait accroupis ces monstres à corps de lion, mais à poitrine et à tête de femme, symbole de Nette, la déesse de la sagesse, quittée, a baptisé du nom de Sphinx. Seulement ces sphinx, au lieu d'être de marbre comme leur piédestal, étaient vivants, quoique enchaînés à leur place. Leurs yeux s'ouvraient et se fermaient. Leur poitrine se levait et s'abaissait, et il semblait au chevalier qu'il le couvrait d'un regard d'amour. Enfin, avec un effort, l'un d'eux leva la patte et l'étendit vers le chevalier, qui, pour éviter l'attouchement, fit un bond de l'autre côté. Mais un second sphinx leva la patte à son tour, ce que voyant, les autres sphinx en firent autant. Et cependant, il était évident que les monstres égyptiens, la douceur de leur regard et l'agitation de leur poitrine en faisaient foi, n'avaient pas de mauvaises intentions contre le chevalier. Au contraire. Mais le chevalier semblait plus craindre la bienveillance des monstres que leur haine. Il cherchait où fuir et comment fuir. Ce n'était pas chose facile. Les piédestaux s'étaient mis en mouvement comme mus par une grande machine, et il se trouvait complètement enveloppé. En ce moment, il sembla au chevalier qu'il se formait près de lui un nuage ayant la forme de ces gloires sur lesquelles descendent au théâtre les princesses endormies. Ce nuage semblait n'attendre que l'instant où le chevalier serait couché dessus pour quitter la terre. Et, comme les yeux des monstres devenaient de plus en plus tendres, comme leurs seins devenaient de plus en plus palpitants, comme leurs griffes effleuraient presque le collet de son habit, le chevalier n'hésita plus. Il se coucha sur son nuage et s'envola avec lui. Mais alors, il parut au pauvre Dieudonné que le nuage s'animait, que ces flocons n'étaient rien d'autre chose qu'une robe de gaze, que la partie solide sur laquelle il s'appuyait était un corps, que ce corps, comme celui d'Iris, la messagère des dieux, et qui traversait l'espace comme elle, était celui d'une belle jeune fille, aux membres arrondis, aux chairs palpitantes, à la laine enflammée. Elle avait sauvé le chevalier, mais pour elle, elle l'emportait, mais dans sa grotte. Elle le couchait sur un lit de sable fin, mais elle se couchait à ses côtés. Et comme si son haleine devait faire passer dans la poitrine terrestre le feu qui brûlait dans sa poitrine divine, la belle messagère semblait lui souffler le feu de son cœur sur les lèvres. La sensation fut si vive que le chevalier poussa un cri et se réveilla. Il ne rêvait qu'à moitié. Mahouni était couché près de lui, et c'était le souffle de la jeune Tahitienne qui le brûlait. Comme le chevalier, Mahouni, après son déjeuner, avait cherché un endroit où faire sa sieste. elle avait aperçu le chevalier endormi dans le plus charmant endroit du jardin, et couché sur une natte trois fois trop grande pour une personne seule. Elle n'avait vu aucun mal, la charmante fille de la nature, à lui emprunter, pour une heure ou deux, la portion de natte dont il ne se servait pas. Et sur cette portion de natte, elle s'était endormie sans plus mauvaise idée qu'un enfant près de sa mère. Seulement, pendant son sommeil, agitée elle aussi sans doute par quelque songe, son bras s'était étendu, sa poitrine s'était gonflée, et son souffle de flamme était venu brûler les lèvres du chevalier. Elle dormait toujours. Le chevalier détacha délicatement le bras de la jeune fille qui s'était enlacée à son épaule, s'éloigna avec toutes les précautions du monde, se dressa avec peine sur ses pieds, et une fois sur ses pieds, se mit à courir sans trop savoir où il allait, abandonnant sa redingote qu'il avait mise bas pour servir d'oreiller à lui-même et qui pour le moment servait d'oreiller à Mahaouni. Le chevalier se sauvait du côté de la mer et il ne s'arrêta que lorsque celle-ci lui fit obstacle. Il était à peu près 1 heure de l'après-midi, c'est-à-dire que le soleil, à son zénith, embrasait le ciel et par contre-coup la terre. Le chevalier songea quelle douce jouissance, quelle suave volupté doivent éprouver les nageurs qui, comme les poissons ou les femmes tahitiennes, peuvent glisser entre deux eaux. Ce fut alors qu'il regretta presque douloureusement de ne pas avoir étudié cette partie indispensable de l'éducation d'un homme. Mais, sans savoir nager, il pouvait néanmoins jouir de la fraîcheur de l'eau. Il avait remarqué, dans les anfractuosités du rivage, des grottes naturelles où la mer formait des espèces de baignoires. Là se trouvaient les deux délices qu'il cherchait, l'ombre et la fraîcheur. Le chevalier résolut de se les procurer. Il descendit le long du rivage, opération qui ne fut pas sans difficulté, la marée étant basse. Et, comme s'il eut à la main la baguette d'une fée pour exaucer ses désirs, il trouva une grotte qui semblait taillée sur le modèle de celle de Calypso. Il regarda de tous côtés si la grotte n'était point habitée. La grotte était parfaitement solitaire. Le chevalier pensa donc que sa pudeur ne courait aucun risque. Il dévêtit les unes après les autres chaque pièce de son costume, posa le tout dans une grotte en miniature près de la grande, et tâtant le sol du pied, il pénétra dans l'arcade décrite par le rocher. À l'endroit le plus profond, à peine le chevalier trouva-t-il 3 pieds d'eau. Cette eau tiède, mais rafraîchie par l'ombre que ce rocher répandait au-dessus d'elle, lui fit éprouver une des plus délicieuses sensations qu'il eût jamais ressenties. Il se demanda comment un homme pouvait ne pas savoir nager. Mais il se répondit que, pour apprendre à nager, il fallait se montrer à peu près nu à d'autres hommes. Et Dieudonné, grâce aux chanoinesses, avait été élevé dans de telles idées de pudeur qu'il frissonnait rien qu'à cette idée d'apprendre à nager avec Duménil, qui, cependant, était son meilleur ami. Il avait, par bonheur, découvert cette grotte. Il n'en parlerait à personne et y passerait une partie de ses journées. Les sensations du bien-être qu'il y éprouvait étant telles qu'elles pouvaient lui tenir lieu de toute récréation. Il est évident que l'esprit lui-même ne demande aucune distraction quand le bien-être matériel est tel que l'homme n'a pas trop de toutes ses facultés physiques et intellectuelles pour l'apprécier. Le chevalier resta ainsi 1 heure ou 2 plongé dans une béatitude qui ne lui permettait pas même de mesurer le temps. Tout à coup, il fut tiré de cette espèce d'extase par le bruit d'un corps pesant qui tombait dans l'eau. Il avait vu vaguement passer quelque chose dans l'air, mais il lui était impossible de dire quoi. Au bout d'un instant, il vit reparaître une tête rieuse à la surface de la mer. C'était celle de Mahaouni. Elle prononça quelques mots qui semblaient un appel à ses compagnes. L'appel ne fut pas vain. Un corps traversa l'espace, passant avec la rapidité de l'éclair, et s'enfonça dans l'eau avec le même bruit que le chevalier avait déjà entendu. Puis un troisième, puis un quatrième, puis 10, puis 20. C'étaient toutes les belles paresseuses que le chevalier avait vues le matin, prenant un bain de rivière, et qui, pour varier leur plaisir, prenaient un bain de mer. Toutes les têtes reparurent les unes après les autres. Puis, ces filles d'Amphitrite, comme eût dit un poète grec, se livrèrent à leur amusement favori, la natation. Dieudonné les voyait, mais elle ne pouvait le voir, caché qu'il était dans l'ombre de sa grotte. Une seconde heure se passa que le chevalier, nous devons l'avouer, ne trouva pas plus longue que la première. Ajoutons même qu'il portait une telle attention au spectacle qu'il avait sous les yeux, qu'il ne s'aperçut que l'eau augmentait que lorsqu'il eut de l'eau jusque sous les aisselles. C'était tout simplement la marée qui montait. Dieudonné n'avait pas songé à ce phénomène et n'éprouva une inquiétude réelle qu'en voyant flotter ses vêtements à la surface de l'eau. La grotte où le chevalier les avait déposés étant plus basse que l'autre, la mer y avait pénétré d'abord et avait enlevé les habits du chevalier. En voyant ses hardes se balancer sur le flot, le chevalier voulut crier, mais c'était indiquer sa présence aux femmes, il n'osa. Si au moins il eut sur le dos ses habits qui s'en allaient flottant, il n'eut point hésité à paraître habillé devant elles, car elles ne lui paraissaient pas des déesses à le punir à la manière d'Actéon. Mais s'il eût été habillé, il n'eut eu aucun motif d'appeler. Le chevalier se trompait, car sa situation devenait grave. L'eau qui atteignait sa ceinture à peine lorsqu'il était entré dans la grotte et qui avait peu à peu monté jusqu'à ses aisselles, atteignait maintenant son menton. Il est vrai qu'en se reculant de quelques pas, il pouvait gagner un pied. Mais le chevalier commençait à comprendre sa situation. Le flux arrivait. Et, regardant autour de lui, il pouvait voir à quelle hauteur l'eau montait dans la grotte. À marée pleine, il aurait 4 pieds d'eau par-dessus la tête. Le chevalier faillit s'évanouir. Une sueur froide glaça ses cheveux. En ce moment, les nageuses jetaient de grands cris. Elles venaient d'apercevoir ses vêtements. Comme elles ne savaient pas ce que ces vêtements voulaient dire, elles nagèrent toutes vers la grotte. Mais au lieu de les appeler à son aide, Dieudonné, plein de honte, recula tant qu'il put reculer. Les jeunes femmes prirent l'une le gilet, l'autre le pantalon, l'autre la chemise, tout en ayant l'air de se demander comment ces habits se trouvaient là. Il n'y avait point à s'y tromper, c'étaient des habits d'Européens. Le chevalier avait bonne envie de leur redemander ses habits. Mais quand il les leur aurait redemandé, qu'en ferait-il mouillé comme il l'était? C'était un paquet à sauver avec lui, et il n'avait déjà plus de chance de se sauver tout seul. L'eau montait incessamment. Le chevalier sentait que dans 10 minutes il aurait de l'eau par-dessus la tête. Une vague qui arriva plus haute que les autres lui couvrit le visage d'écume. Le chevalier instinctivement jeta un cri. Ce cri, les nageuses l'entendirent. Une seconde vague suivit la première. Dieudonné pensa au capitaine, et comme si celui-ci eût pu l'entendre, il cria À moi, Duménil, au secours, au secours !» Les nageuses ne comprirent point ces paroles. Mais il y avait dans la façon dont elles étaient prononcées un tel accent de détresse qu'elles devinèrent que celui qui avait jeté ce cri était en danger de mort. Le cri venait évidemment de la grotte. Une d'elles y pénétra, nageant entre deux eaux. Tout à coup, le chevalier vit, à deux pas devant lui, se dresser une tête. C'était celle de Mahaouni. Elle devina, au visage décomposé du chevalier, la situation où il se trouvait. Elle fit un cri d'appel, toutes ses compagnes accoururent. Le chevalier se trouvait juste dans la situation de Virginie sur le pont de Saint-Géran, sauvée si elle voulait accepter le secours du matelot nu qui s'engageait à la porter au rivage, perdue si elle refusait. Les Tahitiennes faisaient entendre par leurs gestes et essayaient de faire entendre par leurs paroles à Dieudonné qu'il n'avait qu'à s'appuyer sur elle et qu'elle le porterait à terre. Deux d'entre elles, étroitement enlacées, formaient une espèce de radeau sur lequel il pourrait s'étendre, tandis que de la main gauche et de la droite, il se soutiendrait sur les épaules des deux nageuses. Rendons au chevalier cette justice qu'il hésita un instant. Qu'un instant, il eut la chaste pensée de mourir comme la Vierge de l'île de France. Mais l'amour de la vie l'emporta. Il ferma les yeux, s'étendit sur le radeau mobile, appuya ses mains sur les rondes épaules des belles nymphes et se laissa aller. Murmura-t-il le nom de Mathilde ? Nous n'étions pas là pour l'entendre et nous n'en répondrions pas. Trois ou quatre mois après cet événement, dont Dieudonné s'était bien gardé de parler au capitaine, chassant des oiseaux de mer avec son ami, Dieudonné, en se penchant imprudemment hors du bateau, tomba à la mer. Le capitaine poussa un cri terrible, jeta rapidement bas sa veste et son gilet pour s'élancer après Dieudonné. Mais au moment où il allait accomplir cet acte de dévouement, il vit, à sa grande stupéfaction, le chevalier qui remontait à la surface de la mer à l'aide d'un vigoureux coup de pied donné dans l'eau et qui, arrivé à cette surface, faisait s'abrasser non pas comme un caleçon rouge, mais comme un honnête caleçon bleu. Duménil fut si étourdi de ce qu'il voyait qu'il en resta non seulement muet, mais immobile. « Eh bien, dit Dieudonné, donne-moi donc la main pour m'aider à remonter dans la barque. » Duménil lui donna la main, le chevalier remonta. « Mais au diable, as-tu donc appris à nager ?» lui demanda Duménil. Dieudonné devint rouge jusqu'aux oreilles. « Ah, sournois !» dit le capitaine. Puis, éclatant de rire, « Eh bien, conviens, ajouta-t-il, que ce sont là des maîtres nageurs qui valent ceux de Deligny. » Dieudonné ne répondit point, mais l'habileté avec laquelle il s'était tiré du danger prouvait que le capitaine avait raison.